Amérique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bienvenue dans cette édition du 1er décembre 2020. Nathalie Barge à la présentation. Voici les titres. En République démocratique du Congo, le chef de la garde républicaine invite ses hommes à ne pas comploter contre le président Félix Tshisekedi. Le HCR a lancé un appel aux autorités éthiopiennes pour accéder aux réfugiés érythréens au Tigré. Le président élu américain Joe Biden présente les responsables économiques de sa future administration. C'est la journée mondiale de lutte contre le sida, mais la pandémie de Covid-19 est restée au premier plan. Après le journal, ce sera l'actualité économique et les sports. En République démocratique du Congo, le chef de la garde républicaine a ordonné à ses hommes de ne pas comploter contre le président Félix Tshisekedi en pleine crise au sein de la coalition au pouvoir. Le point avec Eddy Issango.
Je vous invite à ne pas comploter contre le pouvoir en participant à des réunions clandestines, a déclaré le général Christian Tshiwewe, chef de la garde républicaine, l'unité d'élite chargée de la protection du président. Ma mission est de protéger les chefs de l'État comme il s'y doit, a-t-il insisté dans une vidéo à Paris hier sur les réseaux sociaux. Trahir les Congos pour nous, c'est trahir les présidents de la République en allant à l'encontre de ces directives, a-t-il ajouté. Le président Tshisekedi a invité les commandant des grandes unités et dirigeants militaires à Kinshasa pour une réunion. Quelques jours auparavant, le porte-parole de l'armée, le général-major Léon Richard Kasonga, avait lui aussi insisté sur le politisme de l'armée. Ces déclarations interviennent dans un moment de crise au sein de la coalition au pouvoir. Face à la montée des tensions avec les fonds communs pour les Congos, la majorité pro-Kabila, le président Félix Tshisekedi a lancé le 2 novembre des consultations politiques qui ont pris fin mercredi. Il doit désormais annoncer ses décisions.
En République démocratique du Congo toujours, plusieurs femmes et enfants ont été tués lundi soir en Ituri, dans le territoire de Djougou, selon Jules Tsouba, président de la société civile de la région. La radio de l'ONU au Capi parle de 3 femmes et 6 enfants. 3 autres femmes grièvement blessées ont été transportées par des casques bleus bangladais vers un hôpital. Les attaques sont attribuées aux miliciens Codeco. D'autre part, Médecins sans frontières a annoncé mettre fin à ses activités à Kimbi et Baraka, dans le territoire de Fizi, au sud Kivu, en raison de l'insécurité pour ses personnels. Cette décision intervient à la suite de plusieurs incidents violents contre l'organisation cette année. Des radios privées au Tchad ont cessé d'émettre ce mardi pour protester contre l'arrestation récente de 30 personnes, dont des journalistes et des opposants, dans les locaux d'une station. Bagassi Koura nous en dit plus.
Des policiers avaient pénétré de force vendredi dans les locaux de la radio FM Liberté, média à la pointe de la défense des droits humains au Tchad, pour arrêter un membre du Forum citoyen, une coalition de partis politiques et d'associations de l'opposition interdite par le régime du président Idriss Déby Itno, qui dirige le pays depuis exactement 30 ans. 30 personnes avaient été interpellées, dont des journalistes, et retenues toute la journée dans les locaux de renseignements généraux avant d'être libérés vendredi soir. Le membre du Forum citoyen et 2 de ses proches sont toujours en détention à ce jour, poursuivis notamment pour trouble à l'ordre public. Une 60aine de radios membres de l'Union des radios privées du Tchad observent scrupuleusement l'appel d'une journée sans radio, tant à N'Djamena que dans les provinces, pour dénoncer les agissements des forces de l'ordre, affirme ce mardi Menkondo Sony, le président de ce syndicat, qui avait demandé à ses membres de ne plus émettre de 1h du matin à minuit ce soir. La dizaine de radios membres de l'URPT qui diffusent à N'Djamena et ses environs ont effectivement cessé d'émettre dans la capitale. Cette journée sans radio survient en pleine journée de la liberté et de la démocratie au Tchad, un jour férié durant lequel on célèbre le 30e anniversaire du coup d'État contre l'ancien président Hissène Habré et l'arrivée au pouvoir d'Idriss Déby, le 1er décembre 1990.
Boko Haram a revendiqué la tuerie de samedi contre des agriculteurs dans le nord-est du Nigeria qui a fait 76 morts selon un dernier bilan des autorités. Dans une vidéo de propagande, le groupe dirigé par Aboubakar Sheko affirme avoir tué des dizaines de villageois du district de Géré près de Maïdougouri. L'opposition parlementaire en Côte d'Ivoire a boycotté ce mardi la session budgétaire pour exiger la libération de plusieurs députés arrêtés dans le cadre des troubles électoraux. Dénonçant des arrestations arbitraires, les groupes parlementaires du PDCI et de Vox Populi Rassemblement ont demandé la libération sans délai des députés en détention et l'arrêt des poursuites judiciaires. Parmi les députés emprisonnés figurent Pascal Affine-Guessant et Maurice Guikaoué. Au Mali, l'insécurité et la pandémie de Covid-19 entraînent une augmentation de la traite des enfants, du travail forcé et du recrutement par des groupes armés, indique le HCR. Dans un communiqué publié ce mardi, 230 cas de recrutement d'enfants ont été rapportés au premier semestre 2020. Des groupes armés se livrent au trafic d'enfants destinés au travail dans les mines d'or. Les écoles restant fermées, les enfants se retrouvent dans des mines, notamment à Gao et Kidal. Environ 6000 enfants travaillent dans 8 sites miniers du pays. L'Agence des Nations Unies pour les réfugiés a lancé un appel aux autorités éthiopiennes pour avoir accès aux 96 000 réfugiés érythréens dans la région du Tigré. Le point avec Abdourahman Dia.
Le porte-parole du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, Babar Balok, a fait part de son inquiétude lors d'un point de presse à Genève. Selon lui, le HCR a perdu le contact avec les quatre camps installés depuis une décennie dans la région du Tigré. Il a indiqué que ces camps sont à court de vivres et il s'est dit préoccupé par les informations non confirmées d'attaques, d'enlèvements et de recrutements forcés dans les camps des réfugiés. Le HCR réitère fermement son appel à la sécurité des réfugiés, a indiqué son porte-parole. Sur le terrain, la situation reste confuse. Les autorités éthiopiennes affirment avoir pris le contrôle de la capitale du Tigré, Mekele, mais le chef du TPLF, Debretsion Gebremichael, a assuré que les combats se poursuivaient. Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a appelé lundi à une cessation totale des combats et à permettre un accès humanitaire sans entrave à la région du Tigré. Il est essentiel de régler le conflit en cours et de maintenir l'Éthiopie sur le chemin de la démocratie, a souligné M. Pompeo sur Twitter après s'être entretenu au téléphone avec Abiy Ahmed, le premier ministre éthiopien.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président élu américain Joe Biden et Kamala Harris, vice-présidente élue, présentent ce mardi les principaux responsables économiques qu'ils ont choisis pour leur administration. Le point avec Claire Morin-Gibourg.
Janet Yellen, ancienne présidente de la Banque centrale, a été choisie hier pour être la première femme à diriger le département du Trésor. Et Wally Adeyemo, originaire du Nigeria, a été nommé pour être son adjoint. Si sa nomination est confirmée par le Sénat, ce serait le premier Afro-Américain à occuper le poste de numéro 2 au Trésor. Joe Biden a également nommé Neera Tanden, d'origine indienne, au poste de directrice du Bureau de la gestion et du budget du gouvernement. Cecilia Rouse, de l'Université de Princeton, a été nommée à la présidence du Conseil des conseillers économiques de la Maison-Blanche. Elle serait la première noire et la quatrième femme à occuper le poste. La priorité de cette équipe de conseillers économiques sera de gérer les conséquences de la pandémie de coronavirus sur la plus grande économie du monde.
Le plan du Parlement iranien visant à contraindre Téhéran à mettre un terme aux inspections de son programme nucléaire après l'assassinat d'un physicien n'est ni nécessaire ni utile, indiquait la diplomatie iranienne, déclarant vouloir réaliser les objectifs de Mohsen Hassan Fakhrizadeh, assassiné vendredi, le Parlement a approuvé une loi qui enjoindrait au gouvernement de mettre fin aux inspections et de produire et de stocker au moins 120 kilos par an d'uranium enrichi à 20%. Le gouvernement a annoncé qu'il n'est pas d'accord avec ce plan. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco qui vous est présentée par John Lyndon.
La Côte d'Ivoire et le Ghana tiennent tête aux géants du chocolat. Le Conseil Café Cacao de Côte d'Ivoire et le Ghana Cocoa Board, les organes de régulation des filières cacao de ces deux pays qui produisent les deux tiers du cacao mondial, reprochent aux grandes compagnies chocolatières américaines Hershey et Mars d'acheter du cacao ou du beurre de cacao sans payer le différentiel de revenus décents. Il s'agit d'une prime de 400 dollars par tonne de cacao en sus du prix du marché destiné à mieux rémunérer les planteurs de cacao dont beaucoup vivent dans la misère. L'État de Côte d'Ivoire, à travers son trésor public, a levé le 30 novembre 2020 auprès des investisseurs opérant sur le marché financier de l'Union monétaire ouest-africaine 202 milliards de francs CFA au terme de son émission d'adjudication de bons assimilables du trésor dénommé bon social COVID-19. Ces fonds devraient permettre de couvrir les décalages des trésoreries créés par la lutte contre la pandémie. L'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique, revoit à la baisse sa prévision de croissance mondiale des 5 à 4,2% pour 2021. L'OCDE a également légèrement corrigé son estimation pour 2020, mais à la hausse. Le PIB mondial devrait finalement se contracter de 4,2% contre au moins 4,5% selon ses prévisions antérieures.
À présent, les sports présentés par Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir à tous. Les matchs de la 5e journée de la Ligue des Champions débutent ce soir. À suivre, entre autres rencontres, Shakhtar Donetsk, Real Madrid, Atlético Madrid, Bayern Munich, le Borussia Mönchengladbach reçoit l'Inter Milan, Manchester City se déplace au Portugal pour y affronter le FC Porto, Liverpool accueille l'Ajax Amsterdam, Marseille reçoit l'Olympiakos. Demain, la Française Stéphanie Frappard deviendra la première femme à arbitrer un match de la prestigieuse compétition européenne. Elle a été désignée par l'UEFA comme arbitre central de la rencontre Juventus-Turin-Dynamo Kiev. Stéphanie Frappard, 36 ans, s'était déjà vue confier la Supercoupe d'Europe d'août 2019, opposant Liverpool et Chelsea. Après avoir été la première femme à arbitrer en deuxième division française en 2014, puis dans l'élite masculine française en 2019, où elle a arbitré début octobre son premier choc Lyon-Marseille. Direction la République démocratique du Congo pour prendre des nouvelles du meilleur buteur du championnat chinois annoncé en Europe. L'international congolais Cédric Bakambu pourrait signer son comeback en Espagne. Dans une interview accordée à Valdo Simo Yamayaba à Kinshasa, Bakambu n'a pas caché ses envies de revenir en Europe, même s'il n'a pas fait mention de sa destination.
L'option d'un retour en Europe figure une fois de plus parmi les priorités du meilleur buteur du championnat chinois. 14 buts à son compteur cette saison. L'international congolais Cédric Bakambu en a fait mention il y a peu à Kinshasa.
Le retour en Europe, tout le monde l'attend. Et bon, on verra ce que l'avenir me réserve. Mais c'est vrai que j'ai fait un bon bout de chemin jusqu'à là. Je suis fier de mon parcours. Cette saison, j'ai terminé meilleur buteur de la Chinese League. J'ai hâte de savoir ce que je vais proposer à l'avenir.
L'Europe, mieux, c'est en Espagne qu'il est annoncé d'ici janvier 2021. À en croire la presse espagnole, le Real Madrid serait sa destination. Mais l'attaquant congolais est encore sous contrat avec les Beijingois.
On ne sait pas de quoi demain sera fait. Pour l'instant, je suis sous contrat. Il me reste un an de contrat. Et on verra si j'irai au bout ou pas.
Reste à savoir si cette fois-ci sera la bonne, puisqu'en janvier 2020, Bakambu était prêt à signer à Barcelone. Mais cela n'avait pas abouti. Kinshasa, Valdo Simo Yamba, VOA Afrique.
Le coach d'Arsenal, Mikel Arteta, donne des nouvelles de l'international ghanéen Thomas Partey, remplacé à la mi-temps du match contre Aston Villa. Le milieu de terrain souffre d'une blessure à la cuisse gauche et n'a pas pris part aux éliminatoires de la CAN lors de la fenêtre internationale. Il s'est blessé très tôt dans le match, il voulait continuer la seconde période, a déclaré Arteta dans des propos relayés par Goal. Nous savions que c'était une blessure importante. J'espère que nous pourrons le récupérer bientôt. Mais c'est un domaine auquel nous devons faire attention et nous devons être protecteurs avec le joueur. Je ne pense pas qu'il sera avec nous dans les prochains matchs, a déclaré Mikel Arteta.
Merci beaucoup Yacouba pour cette page sportive. Et vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Nathalie Barge pour vous présenter cette édition. Maintenant, les dossiers du jour. Journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida. En République démocratique du Congo, le traitement est de plus en plus accessible sur l'ensemble du territoire national et certaines organisations du pays militent pour leur prise en charge au plan juridique. Un reportage de Valdo Simoyamba à Kinshasa.
Célébré sous les termes Solidarité mondiale et responsabilité partagée, RDC, ce 1er décembre 2020 est l'occasion de faire notamment les points sur l'évolution de l'accès aux antirétroviraux. Joseph Lyomba est le chef des divisions chargées de communication au programme national de lutte contre les SIDA.
Il vient, où est la progression? Nous sommes à 351 359 personnes vivant avec le VIH qui sont sous traitement antirétroviraux et dont 21 896 enfants. Si on regarde le taux de pourcentage de séropositifs des personnes qui connaissent leur statut sérologique, sont à 63. Ceux qui connaissent le statut VIH et qui ont adhéré au traitement est à 61%.
Une certaine catégorie de personnes sont les plus exposées au VIH, confie Joseph Lyomba.
Personnes plus vulnérables, notamment les femmes qui se prostituent, notamment les hommes qui ont des rapports soit avec des hommes, les drogués, des drogues injectables, sont pour nous des personnes qui sont très vulnérables.
Pour Jean-Pierre Bongou, médecin aux cliniques universitaires de Kinshasa, les VIH-Sida et bien d'autres maladies sont évitables.
La prévention pour toutes les maladies évitables, que ce soit le sida, que ce soit le choléra, que ce soit le Ebola, que ce soit le Covid, toutes ces maladies sont évitables. Et en ce qui concerne le sida, il faut de l'abstinence, il faut la fidélité, il faut utiliser les préservatifs, mais il faut aussi savoir faire le test.
Malgré la pandémie à Covid-19 qui s'est invitée, le programme national de lutte contre le sida s'est satisfait d'avoir atteint certains de ses objectifs. Et Mboyo est le directeur de ces programmes.
Donc pour le premier 90, fin juin 2020, nous avons pu donc réussir à faire connaître les statuts sérologiques à 70% des personnes, n'est-ce pas, qui seraient donc infectées par le VIH. Et nous sommes à 66% fin juin 2020.
Les programmes nationaux de lutte contre le VIH-Sida a franchi un cap quant à faire connaître en toute quiétude l'état sérologique de la population congolaise.
Nous avons introduit des possibilités allant jusqu'à l'auto-test, puis aller avoir la confirmation dans une structure spécialisée.
En RDC, la personne vivant avec le VIH-Sida est également prise en charge juridiquement, confirme Altesse Ngiama, avocat, membre du centre d'expertise en droits humains et criminologie.
L'accès à la justice leur est très difficile lorsqu'ils sont stigmatisés dans le travail, dans la société. Alors, lorsqu'ils viennent vers nous, ils ont cette assistance juridique et judiciaire gratuitement. Et aussi, nous faisons la vulgarisation de certains textes de loi en rapport avec la protection des personnes vivant avec VIH-Sida.
Ainsi donc, il est prouvé que la lutte contre le VIH-Sida demeure encore et toujours une préoccupation en cette nouvelle célébration de sa journée. Kinshasa, Valdo Simoyamba, VOA Afrique.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Goma, c'est sur 96.2 FM en République démocratique du Congo.
Il y a 4 ans, les gouvernements du monde entier se sont engagés à atteindre les objectifs des Nations Unies qui mettraient fin à la pandémie de SIDA. Un reportage de Carole Pearson de La Voix de l'Amérique explique pourquoi ces objectifs sont si insaisissables et comment une grande ville américaine est parvenue à les atteindre. Le récit est de Gaby Dorsil.
Le monde dispose depuis une décennie des outils qui peuvent permettre de mettre fin au sida. Les médicaments anti-sida rendent presque impossible la transmission du virus. Et il existe des médicaments que les personnes à haut risque de contracter le VIH peuvent prendre pour prévenir la transmission. Il y a 4 ans, les gouvernements du monde entier se sont engagés à atteindre 3 objectifs. Établir un diagnostic pour 90% des personnes séropositives, traiter 90% de ces cas et supprimer le virus à des niveaux indétectables chez 90% des personnes traitées. Pourtant, les experts disent que nous sommes encore loin de pouvoir mettre fin à la pandémie. Le docteur Chris Byrer a passé les 30 dernières années à faire des recherches sur le VIH-Sida. Il est professeur à l'université Johns Hopkins.
2020 était censé être l'année où nous allions avoir une baisse vraiment significative des nouvelles infections, en dessous de 500 000 dans le monde. Et nous avons eu plus d'1 700 000 nouvelles infections en 2019. Nous sommes donc loin de contrôler la transmission du VIH.
Byrer dit que les adolescents et les jeunes adultes sont particulièrement vulnérables.
Nous constatons que les gens contractent le VIH quand ils sont relativement jeunes, en particulier en Afrique subsaharienne, mais c'est aussi vrai aux États-Unis, en Amérique latine, dans la Caraïbe, en Asie de l'Est, en Asie du Sud-Est, et puis ils ne commencent la thérapie que beaucoup plus tard.
C'est un énorme problème pour les jeunes hommes, dit Byrer. Ils ne consultent généralement pas de médecin et ne feront probablement pas de test avant de développer des symptômes. En conséquence, ils meurent plus tôt que les femmes séropositives et ont eu des années pour transmettre le virus à leur partenaire, ajoute-t-il. Le VIH prospère dans les pays où le fait d'être une travailleuse du sexe, un homosexuel ou un transgenre est un crime, où les consommateurs de drogues intraveineuses sont punis et où ces groupes sont stigmatisés. Plus de 60% des nouvelles infections au VIH appartiennent à ces groupes. La ville de New York a atteint les objectifs des Nations Unies grâce à un programme qui a élargi les soins de santé pour inclure les personnes à risque de contracter le VIH. Le docteur Dimitri Daskalakis a dirigé le programme de lutte contre le sida au service de santé de la ville.
Une grande partie de ce que nous avons fait à New York pour mettre fin à l'épidémie est venue directement de communautés, comme par exemple le travail que nous avons fait avec des organisations dirigées par des transgenres. Nous écoutons littéralement ce dont les organisations dirigées par des transgenres avaient besoin et nous concevons quelque chose pour répondre à ce besoin.
Daskalakis dit que la prévention du sida a réussi à New York parce que les services de santé se sont concentrés sur la fourniture de soins et non sur l'identité des personnes ayant besoin de ces services. Daskalakis supervisera bientôt le programme de lutte contre le VIH-Sida pour les centres de contrôle et de prévention des maladies, CDC. Il est convaincu que les États-Unis peuvent obtenir des résultats similaires en s'informant des besoins de différents groupes.
Washington, VOA Afrique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le gouvernement béninois envisage d'intégrer la médecine traditionnelle dans le système des soins de santé et en faire une pratique médicale reconnue. Selon les spécialistes, il faut assainir le secteur pour donner de la place aux personnes qui maîtrisent cette pratique et exclure les potentiels charlatans. Voici sur cette question un reportage de notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleuradandé.
Les Béninois accordent une importance capitale à la médecine traditionnelle. La consommation des plantes, des écorces et racines a plus de bienfaits que les médicaments. C'est ce que pensent certains qui ne jurent que par la guérison traditionnelle. Quelques personnes rencontrées devant une vendeuse de plantes et autres infusions s'expliquent.
Quand on prend le tisane là, c'est bon, non ? Ça traite bien le corps, ça donne bien la forme, ça arrange le corps bien. Mais si ne donne pas le malin, ça te plaît, si tu peux prendre.
Oui, j'en consomme. Je préfère prendre le tisane que d'aller dans les pharmacies, de prendre les produits pharmaceutiques. Et c'est plus naturel. La fatigue, le palu, le courbage. Oui, je me sens à l'aise.
Souvent, moi, j'aime la tisane, puisque c'est naturel. Ça rentre directement dans le sang. L'effet, c'est instantané.
Quand je sens le palu, je les prends. Et pour ceux des racines mélangées à la boisson alcoolisée, quand j'ai des maux de ventre, je le prends. Oui, je me retrouve.
Depuis 2001, le Bénin a décidé de donner une chance à la médecine traditionnelle afin qu'elle fasse ses preuves. Les professionnels du secteur sous la direction du gouvernement et de l'OMS se rencontrent chaque 12 juin pour la célébration de la journée nationale de la médecine traditionnelle. Pour les guérisseurs, le temps est venu pour qu'ils prennent leur place dans le développement national. Roch Rouignien est le coordonnateur du programme national de la pharmacopée.
Une journée que nous célébrons tous les ans pour faire le plaidoyer, pour rappeler que la médecine traditionnelle c'est
20% de la population qui a recours, rappelle que les guérisseurs traditionnels sont à l'avant-garde des épidémies. Donc c'est une journée pour rappeler leur force. Au Bénin, le ratio c'est un guérisseur pour 800 habitants, alors que nous avons un médecin pour près de 8000 habitants.
L'objectif est de répertorier tous ceux qui se réclament de cette branche afin de les aider à proposer des remèdes et recettes qui sauvent. Christian Chaffa, le représentant du ministre de la Santé à la dernière célébration de la Journée nationale de la médecine traditionnelle, a été très clair sur la question.
Le besoin de tirer parti des expériences acquises en médecine traditionnelle est bien perçu par le gouvernement béninois. Mais des efforts restent à fournir pour assurer l'intégration de cette médecine point de vue de l'offre de soins, de l'éducation, de la formation et de la réglementation. L'accent devra être également mis sur les mesures à prendre pour garantir la qualité, l'efficacité et l'innocuité des médicaments à base de nos plantes.
Les acteurs de la médecine traditionnelle pensent pour leur part qu'ils ont les compétences nécessaires mais que l'État doit investir afin de les aider à être à la taille de leur potentialité.
Il faut accompagner les guérisseurs et ça, il faut vraiment davantage investir dans la médecine traditionnelle, accompagner les guérisseurs pour réaliser les essais cliniques, pour suivre toutes les étapes. Parce que nous avons un document, un cadre réglementaire bien établi aujourd'hui au Bénin, mais nous avons besoin davantage de ressources pour accompagner les guérisseurs dans ce processus. C'est immense ce qu'ils peuvent faire.
Au moins, on est arrivé à enregistrer aujourd'hui au Bénin des médicaments issus des plantes et puis mis sur la liste des médicaments au Bénin et distribués dans les officines et prescrits par les médecins. C'est déjà un grand pas.
La médecine traditionnelle au Bénin est plurielle et embrasse toutes les branches de la médecine moderne en dehors de la chirurgie. Du nord au sud, on y rencontre des hommes et des femmes pour qui guérir par les plantes est un don ou un héritage légué de génération en génération. Vous avez toutes les chances de guérir avec ce type de médecin traditionnel, mais le hic serait de tomber sur l'autre revers de la médaille. De Cotonou, Ginatra, dans les Pouvées en Afrique.
Le président élu américain Joe Biden et la vice-présidente élue Kamala Harris ont annoncé les premiers noms de leur équipe de conseillers économiques et qui fait la part belle aux femmes et aux minorités. Claire Morin-Gibourg a contacté ici à Washington l'expert en économie Jean-François Seznec.
C'est quelque chose que le Parti démocrate vraiment poussait depuis très longtemps et je pense qu'ils ont monté une équipe assez formidable en fait, surtout dirigée par Madame Yellen qui est très bien considérée par tout le monde des deux côtés. Donc elle a une très grande expérience et je pense qu'elle va en fait diriger un peu le développement économique des États-Unis et on va voir comment ça va se passer, mais je pense que effectivement elle aura beaucoup de succès à obtenir ce qu'elle veut du Congrès des États-Unis parce qu'elle est bien perçue des deux parties. Donc je pense qu'effectivement ça peut très bien marcher.
Est-ce que vous avez été d'une certaine façon surpris puisqu'il y a plusieurs femmes qui ont été nommées, plusieurs femmes de couleur, c'est quand même un changement important.
Oui, c'est un changement important et c'est surtout un changement qui est fait bien sûr pour que Biden, le président élu, Biden et sa vice-présidente élue puissent satisfaire un peu l'aile gauche du Parti démocrate parce qu'ils en ont besoin pour les votes au Congrès, mais il ne faut pas se faire d'illusions, le changement économique ne va pas vraiment être énorme parce que les intérêts des États-Unis sont les mêmes un petit peu sous Trump que sous Biden, donc tout ce qui concerne les relations avec la Chine, les relations avec l'Europe et avec l'économie de l'Europe, ça ne va pas vraiment changer grand-chose. Ce qui va beaucoup changer, c'est le ton avec lequel c'est fait. Et je pense que ça, en soi-même, c'est important parce que ça peut faciliter, si vous voulez, les négociations et la diplomatie, surtout du point de vue économique.
Quels sont les premiers défis qui attendent cette équipe de conseillers économiques, selon vous ?
Oh, certainement quelle va être la politique avec la Chine et avec les compagnies chinoises, parce que c'est vraiment ce qui est de plus difficile en ce moment aux États-Unis. Le déficit commercial est encore énorme et il va falloir qu'ils s'occupent de ça et tout de suite. Il n'y a pas vraiment... Et la Chine elle-même, je pense, veut que ce soit un sujet qui soit vu tout de suite, qui soit mis vraiment au devant de toutes les autres négociations possibles au point de vue international, en tous les cas.
Jean-François Seznec, chercheur pour Atlantic Council et le Middle East Institute. C'est la fin de cette édition. Un grand merci à toute l'équipe de production pour la technique. À la présentation, c'était Nathalie Barge. Merci beaucoup d'avoir suivi Le Monde aujourd'hui. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. À très bientôt et bon courage.